revient avec le disque du mois, le disque de Selwyn Birchwood qui est chez Alligator Records, toujours Living in a Burning House. Et ensuite, on aura un premier extrait de la discographie de notre invité, Christian Lightning. En attendant, voici Selwyn Birchwood, ça s'appelle Mama Knows Best.
I brought a pretty little girl home to meet the family. Flags in front of me. I asked my mama for her blessing. She hung her head low in thought as she stirred the pot. She said,
"Son, let me try to talk to you. No one has known you longer or loved you more than your mom, and I would never steer you wrong. That girl just ain't no good for you. You should find someone good to you before it's too late. I fear it won't be long. She don't cook, she don't clean, she don't work, she just leans on every little thing you do.
Understand, Lord, I'm a full-grown man, and I want me a family of my own. I know that she ain't perfect, but she's so damn fine. I think it's worth it, and everybody's got their flaws. So it seems to me we'll just have to agree to disagree. Mama turned around. She brought a cigarette to her mouth and exhaled her doubts. She said,
"Son, I want you to listen to me. You don't got to be old by being a fool, and I'm much older than tell your mama knows what she's talking about. You may disagree with me, but I am still right. Trust me. I know what I'm talking about."
It was years and years filled with pain and tears, for I finally caught me a little sense. I could hear my mama's words as they repeated in my head.
"You better leave that girl alone."
It was with a heavy heart and deep regret when I finally laid my mama to her rest. I should have listened from the start, 'cause it came from the heart. You know mama knows best. No lie.
Voilà, c'est rigolo quand on entend ce dialogue entre Selwyn Birchwood, le fils, et sa mère. En fait, Sa mère, c'est pas sa mère, bien sûr, c'est Diona Greenleaf, qui pourrait d'ailleurs être la mère de Selwyn Birchwood, puisqu'il est né en 85 et elle en 57. Selwyn Birchwood, l'album Living in a Burning House, Alligator Records, on y reviendra une dernière fois au cours de cette deuxième heure de Sweet Home Chicago. Après le morceau qui suit, on sera en direct avec Christian Lightning E pour parler de plein de choses. Mais en attendant, on va écouter un extrait de son album, justement la première plage, qui s'appelle I Got the Blues, tout simplement. Non pas I, mais Got the Blues. Christian Lightning E. Morceau initialement de Mississippi John Hurt, ici interprété en 2002 par Christian Lightning E sur son album Paris Suburb Blues Style. À nouveau téléphone, Christian, bonjour.
Bonjour, ça va bien?
Ah, ça va bien, super, super, et toi?
Oui, bah on fait avec là.
On fait avec ou on fait sans, on va dire, hein, toujours de l'autre côté du périphérique parisien, c'est ça, hein? Pour situer.
Ouais, banlieue ouest, ouais.
Voilà. Et puis, on était ensemble, on va le rappeler pour les auditeurs qui n'ont pas écouté cette émission, il y en a peut-être trois ou quatre. Fin janvier, on avait fait une première interview ensemble, et puis on avait trouvé, enfin moi, j'avais trouvé que on n'avait pas tout dit, et puis peut-être que tu avais aussi des choses à exprimer. Mais avant, peut-être revenir sur toi, j'ai trouvé en guise d'introduction ce petit texte qu'avait écrit El Mordé. On en a parlé d'El Mordé d'ailleurs la dernière fois. À propos de toi, est-ce que tu serais d'accord pour que je le lise à l'antenne?
Ah, le texte qu'il a écrit sur le disque, ah bah oui, c'est son...
Eh ben on y va, alors.
Quelqu'un que j'aime bien.
Il écrit « Christian était très vieil ami, il a joué un rôle décisif, voici une trentaine d'années, quand je cherchais la scène française, le jeu, bien sûr, c'est El Mordé qui parle, hein. Les premiers enregistrements, totalement homemade, qu'il présente ici, sont encore antérieurs. Sa version de Come On In My Kitchen, 1977, montre déjà à vif cette liberté d'approche, parfois un peu punk, qui le caractérise. Christian travaille les classiques au corps à corps, sans le timide respect des revivalistes. Sa musique est proprement personnelle et, ma foi, un peu peu folle. Son intimisme éclate, ou plutôt brille dans la pénombre, dans des pièces de pure slide, comme Sliding in the Dark, Picking in the Light, qu'on écoutera tout à l'heure d'ailleurs, ou Chilly Sunday Blues. Pendant la quarantaine d'années que parcourt le disque, sa voix au perché, parfois véhémente, a gardé un cachet d'authenticité et de défi qui s'accorde bien avec le choix de certaines reprises, comme The Twin Sister Blues ou Ain't Got No Home de Woody Guthrie, et avec ses opinions politiques clairement exprimées dans This Train. L'acidité de la mandoline et de l'harmonica relève une protestation qui s'avère surtout vers 1980 franchement expérimentale. Oserais-je dire que sans être un grand amateur de blues garage, je trouve ces enregistrements avec percussions comme New Hesitation Blues et All Night Long, d'après le génial Skip James, dignes de figurer dans des compiles de Fat Possum. En plus, je suis sûr que Christian a la délicatesse de déguiser sous des pseudonymes, Thrashing Blues, certaines participations à un album qui m'a personnellement provoqué, en remettant en cause mes certitudes faciles et en m'assignant mes limites, comme pour des pièces telles que Police Dog Blues, il faut oser reprendre Blind Blake, ou Candyman. Autant que celle d'un Lightning Bluesman, Christian nous livre l'image d'une personnalité qui raconte sans apprêt, sans comédie, gentiment, une vie consacrée à notre musique, un homme tout droit, comme on dit ici en Wallonie, et qui se fait rare. Je ferme les guillemets, c'est Elmore qui parle de toi. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Elmore fasse ta rencontre, ou que tu fasses la rencontre d'Elmore, Christian ?
C'est en Bretagne que je l'ai rencontré la première fois. Il y avait un petit club là-bas où il y avait des amis qui jouaient, dont Daniel Deschamps, qui est un grand amateur de blues et ami des Bill Doreham, qui connaît aussi Jean-Jacques Milteau. Et il était venu jammer, puis on s'est rencontrés là. Et après, il est venu jouer à Paris en 95 ou 96, je crois, avec l'association Traveling Blues. Et il y avait un endroit qui s'appelait le Bottleneck, bien nommé, qui était un restaurant où il y a eu plein de belles choses là-bas, plein de petits concerts, des showcases. Ils ont invité quelques grands, de Kate Movement à Luther Allison, à Screaming Joe Hawkins.
On peut faire un petit clin d'œil à l'ami René Malin, d'ailleurs, à propos de Traveling Blues, hein, si tu veux bien.
Philippe Sorel, Guy Hermont et Nicolas Magnan, qui était mon voisin à l'époque.
Voilà, tout ce petit monde-là, il y a un petit quart de siècle qui s'occupait du blues en France, ou du moins dans la région parisienne, ou du moins dans un petit quartier de Paris, je ne sais pas. Ça représentait quoi pour toi à l'époque ?
Cette association ?
Ouais.
Déjà, il y avait ma femme qui était partie prenante, Marie. C'était une rencontre chaleureuse dans un endroit petit avec un tenancier, un patron qui était complètement fan de blues. Hein. J'allais dans les toilettes, il y avait des posters de blues partout. Ça a duré un moment, il n'y avait pas encore Internet, et il y avait un petit journal gratuit qui était distribué.
Traveling Blues,
Donc voilà, et il est venu jouer là, et il a fait un week-end, et c'était très sympa d'ailleurs.
Voilà la rencontre avec Elmore Day, qui lui continue à placer la bonne parole un petit peu partout, notamment chez lui, autour de Liège, hein, professeur d'université à Liège, Daniel Droix, hein, de son vrai nom. Ça fait partie des rencontres comme ça que tu regrettes absolument pas d'avoir faites. Est-ce qu'il y a d'autres gens comme ça, que ce soit en France, en Europe ou aux États-Unis, qui t'ont façonné, qui t'ont fait, toi, Christian Lightning E?
Question compliquée. Des rencontres, tu veux dire, personnelles ?
Ouais, des rencontres personnelles ou musicales. Enfin, en tout cas, des souvenirs qui persistent jusqu'en 2021, je veux dire.
J'ai un autre voisin, on va en parler tout à l'heure, qui jouait de la guitare hawaïenne, un vieux monsieur qui est décédé il y a une dizaine d'années.
Eh bien, si tu veux, on peut en parler tout de suite de guitare hawaïenne.
Tu me dis, là, c'est quelqu'un qui est devenu un ami, qui était, à sa manière, un musicien, un bluesman français, comme on oublie un peu, qui jouait pas du blues, mais qui jouait des musiques folkloriques, qui était un musicien intéressant. Lui, m'a fait encore plus aimer cet instrument bizarre qu'est la guitare hawaïenne.
Alors, on parle de qui exactement, Christian ?
D'un monsieur qui s'appelait Jacques Thierry Kailua. Il a enregistré un disque, un seul disque hawaïen au début des les années 90.
D'où est-ce que ça devient cet amour pour la guitare hawaïenne? Ça s'entend un petit peu dans ce que tu viens d'interpréter, ça s'entend dans d'autres titres, mais le blues et la guitare hawaïenne, c'est deux choses intimement mêlées, j'ai l'impression, non?
C'est historiquement mêlé, c'est-à-dire que quand tu es amateur de slide guitare, quand tu écoutes Tom Parrott, quand tu écoutes Kokomo Arnold, tout ça, tu vas forcément t'intéresser à dire, mais il y a aussi des Hawaïens qui ont joué. T'écoutes des gens comme Sol Opie, comme King Benny Hawaii, qui étaient dans les années 20-30, hein, qui avaient un swing à la Django Reinhardt. Hein. C'est pareil, c'était des grands musiciens. J'en cite que deux, mais il y en a quelques-uns. Tu t'intéresses forcément. Après, bon, t'achètes un instrument. Hein. Il y a une trentaine d'années, j'ai acheté une lap steel, après des guitares acoustiques hawaïennes. Mm-hmm. Et j'en joue hein, d'ailleurs sur mon disque. Il y a deux, trois morceaux où je joue de la hawaïenne. Hein. Il y a un hommage à Sam Coues, qu'on va entendre tout à l'heure.
Ouais.
Il y a le bourgeois blues. Alors là, on revient sur le blues against racism, parce que c'est une alternette, comme on dit, un morceau alternatif de ce qu'on avait enregistré pour le blues against racism, où là, je joue de la lap steel électrique. C'est le seul morceau électrique de mon disque avec mon ami Rakam. Et on joue le bourgeois blues de façon un peu rock méchante.
C'est ce qu'on entend derrière nous, là, d'ailleurs. Bourgeois blues de Led Belly, qui a été repris maintes et maintes fois. Moi, j'ai en tête une belle version de Sophie Kay. Je ne sais pas si tu l'as entendue.
Ah, y a eu 50 000 versions de ça, oui. Moi, je connais celle du Ray Cooder, qui est très, très intéressante. Mmh. Y a aussi des garage bands comme Tal Falco qui l'ont repris. Voilà, puis là, c'est ma version un peu enregistrée avec l'accompagnement de la lap steel et la basse. Le chant un peu rock.
Ouais, alors d'où vient cette. Oui, pardon, vas-y.
Oui, excuse-moi, il y a When I'm 64 que je fais en lap steel, hein, qui est un truc des Beatles.
Ouais.
Pourquoi pas.
Bah oui, pourquoi pas. D'où ça devient cette passion pour la slide guitare? On va parler français pour ceux qui connaissent pas le bottleneck. Hein, c'est ce petit cylindre métallique ou pourquoi pas aussi en verre ou en plastique qu'on met autour d'un des doigts qui va jouer sur la main gauche, qui va frotter les guitares, c'est ça. D'où ça devient cet amour de la slide? Est-ce que c'est des gens comme Hound Taylor? Est-ce que c'est des gens comme Elmore James ou d'autres plus anciens?
Oui, Elmore James, tout ça. Bucky White pour l'acoustique, ou tous les bluesmen qui jouaient en slide. Hein. Effectivement, Hound Taylor et Howlin' Wolf, pas Howlin' Wolf, Elmore James.
Oui, voilà.
C'est des. Quand tu écoutes ça, notamment, il y a un morceau de Elmore James qui s'appelle Hawaiian Boogie, qui n'est pas joué en mode hawaïen, mais qui est joué en slide guitare, qui date des années 53 par là.
Alors, pour parler un petit peu technique, Christian, on ne peut pas jouer en slide avec une guitare accordée normalement en mi, la, ré, sol, si, mi. C'est un accordage spécial, en open tuning, comme on dit.
Généralement, oui. Il y en a qui le font, mais très peu. C'est presque le même open tuning qu'on a en slide guitare, c'est-à-dire que tu as généralement le sol ou le ré. Mais bon, les joueurs de lap steel, notamment en musique country, ont développé des dizaines d'accordages un peu bizarres. On va pas rentrer là-dedans.
On va dire expérimentaux, hein, Christian, carrément. Ah,
qui sont devenus presque des standards, comme ce que m'avait appris mon ami Jacques, le Mi 6 ou le Do 6, qui sont des trucs de base qu'on... ou des accords de mineur, comme le si mineur, par exemple.
Ce que je te propose, Christian, ce serait de nous présenter cet artiste que tu as évoqué en filigrane tout à l'heure et qu'on avait omis, on n'avait pas eu le temps, franchement, en janvier dernier, de présenter. C'est un garçon qui a enregistré essentiellement dans les années 20, mais attention, les années 1920, on est d'accord, hein?
Oui, fin des années 20, il enregistre entre 1927 et 1928, il fait... 27 faces.
On parle d'un garçon qui s'appelle Sam Coues. Je te laisse nous en parler. Je pense que ça va être une découverte pour beaucoup de l'autre côté du poste.
Et il n'a pas 20 ans quand il enregistre. Ouais. Il a pas 20 ans, il est déjà très réputé aux États-Unis. Il va faire une première tournée mondiale, surtout dans le Far East, c'est-à-dire vers la Chine, vers l'Indonésie, etc. Il va faire une deuxième tournée en 1929, il part en 1927. Alors, les tournées mondiales, ça prenait du temps à l'époque. Il y avait pas d'avion.
C'était en bateau, voilà, etc. Oui, bien sûr.
Donc il met plusieurs mois et il se retrouve à Paris. Donc il joue à Paris, etc. C'était aussi un harpiste. Et il prend des cours de harpe à Paris avec une, paraît-il, Madame Gaveau. Et hélas, il décède à Paris, à 23 ans. Il a une maladie, on ne sait pas trop, il est opéré au niveau du ventre, d'estomac. Et il se retrouve à l'hôpital américain de Neuilly-sur-Seine. Il décède là-bas à 23 ans.
Ah oui, donc alors ça, c'est très rapide et très résumé. C'est vrai qu'une carrière aussi courte, ça, voilà, 23 ans, il a eu le temps de tout donner, il a eu le temps de faire des ouais. choses qu'on écoute presque 100 ans après, ça qui est hallucinant. Moi, j'ai une photo sous les yeux où il est avec un trio qui s'appelle The Harmony Boys, une photo qui date de 1928, avec un certain Tom McKenna et puis George Calani. Il se produisait pas tout seul, ce garçon, Sam Kouest.
Il y a quelques morceaux sur le disque où il est carrément en solo, mm-hmm. qui sont superbes. Et effectivement, il était accompagné, ukulélé, etc., chant hawaïen. Et il reprend des blues, hein, des Fat Twist Blues, Memphis Blues, parce que c'était déjà le mélange entre le jazz, le blues, et surtout le jazz et la musique hawaïenne, qui a démarré un peu avant le blues, hein, La musique hawaïenne, ouais. c'est dès les années 1910, c'est la plus grosse vente de disques aux États-Unis. C'est un quart de la vente. Et donc après, ça va rayonner dans le monde entier.
Et donc ça, c'est 10 ans avant l'enregistrement du tout premier blues par Mammy Smith. Hein.
Oui, il commence à enregistrer dès 1910. Alors, j'ai pas les dates, etc., mais c'est quelques années avant, effectivement. Il y a même des Hawaïens, notamment un autre Hawaïen qui s'est installé en France, qui s'appelle Bob Kawani, qui arrive en 1913 en France, mais il y a la guerre qui éclate et il retourne à Londres. Et après la guerre, il se retrouve aussi dans le fameux duo Kawani et Lula. Il réenregistre à Paris en 1933, etc. Et lui aussi, il reste en France. Et il décède en 1960 au Kremlin Bicêtre.
Donc ça veut dire que dans les années 1920, cette musique était aussi populaire en France ? On ne se trompe ouais. pas en disant ça ?
Oui.
On peut écouter, oui. Hawaiian Hula Blues, si tu veux bien, de Sam Kouest. Voilà. 1927. On se retrouve juste après, Christian. Thank you. revient sur le thème gentiment à la fin. C'était Hawaiian Hula Blues par Sam Kuest. Nous sommes en 1927 et c'est toujours Sweet Home Chicago numéro 1095 qui continue avec notre invité Christian Lightning Hutt. Tu nous as présenté ce monsieur Sam Kuest qui est décédé prématurément, il faut le dire. Et sa tombe a été découverte il y a peu de temps finalement.
Oui, on cherchait il y a déjà 20-30 ans. Il y avait des amateurs qui m'avaient contacté sur Paris. On est allé voir au Père Lachaise, mais ils ne connaissaient pas. Et en 2005, il y a Les Cook, qui est un grand amateur mondial de musique hawaïenne, collectionneur, qui édite des disques, justement des disques un peu particuliers, c'est-à-dire avec des choses qui n'existent pas. Il a fait une compile avec la quasi intégrale de Sam Kuest. Donc on est en 2005.
Ouais.
Évidemment, je me procure le disque tout de suite, sans problème, avec un beau livret, avec des photos inédites, parce qu'il était en contact avec la famille de Sam Kuest à Hawaï, sur la Big Island. Donc il a des photos inédites qu'il publie dans ce livret. Et en plus, il m'envoie un article, il y a marqué « Enterré au nouveau cimetière de Neuilly ».
D'accord.
Ben, je regarde, c'est le cimetière qui est derrière la Défense, derrière la Grande Arche.
Ouais.
Donc moi, je passe devant, je connais bien. On va voir avec ma femme et un ami. Et effectivement, ils nous confirment. Ils vont voir dans leur... ils avaient encore le registre de 1930. Et on regarde. Hélas, ce sert Sam Kuest n'est plus à la tombe initiale parce qu'il a été déplacé en 1970 à l'Osphère. La famille était un peu déçue parce qu'ils voulaient rapatrier le corps.
C'est
très important, c'est surtout pour les Hawaïens, pour les civilisations de la Polynésie, de ramener le corps sur les îles, quoi. Donc voilà. C'est un des grands, mais il y en a d'autres.
Il y en a d'autres, et puis c'est vrai qu'on pourrait en évoquer d'autres. D'ailleurs, des habitants de Hawaï, il y en a un qui est très connu, qui est devenu même président des États-Unis. Je crois qu'il est né peut-être un an après le fait que Hawaï était annexé, hein, il n'y a pas d'autre mot, par les États-Unis. Il est né en 61, je veux parler de Barack Obama. Tu penses que Barack Obama a déjà entendu parler de Sam Kuest?
Je pense qu'il a un peu oublié. Je pense qu'il connaît la musique hawaïenne, mais je pense qu'il a un peu oublié quand même. Et on parle de Solopi, bon, par contre, je pense qu'il y a des amateurs, parce que le disque qui est paru en 2005 sur le label Grass Cut Record, il y en a d'autres qui sont très bien, que vous pouvez vous procurer, qui sont vraiment superbes, il est épuisé. Donc, et vous le trouvez maintenant sur Amazon à 200 euros, quoi.
Ah oui, en effet. Oui. On va oublier. Ça nous amène, ce travail d'ethnomusicologue, ça nous amène à l'une des œuvres que tu as commises. Alors, je ne vais pas reparler à nouveau de Blues Against Racism, qu'on avait évoqué dans notre première interview, celle de fin janvier, mais plutôt ce coffret édité par Habana que tu avais... co-concocté, j'ai envie de dire, avec un certain André Clerjat. Il s'agit des Triomphes du Blues. Alors, certains amis auditeurs de Sweet Home Chicago ont ce coffret qui comprend 20 CD qui se vendaient à l'époque, je ne sais plus, c'était même pas 100 francs, quoi. C'était en 2000, 2001, c'était avant les euros. Il y a eu tout un... 95 francs, oui, tu imagines. 95 francs pour 20 disques, même il y a 20 ans, c'était pas grand-chose. Et c'était donc des titres intégralement enregistrés 50 ans avant, c'est-à-dire de droit, hein, on va dire.
Oui.
Qu'est-ce qui a présidé à la première compilation, Les Triomphes du Blues? Qui a demandé ce travail et pourquoi y avoir contribué, Christian?
C'est André Clerjat qui avait déjà fait son coffret de jazz.
Ouais.
Et qui a très bien marché, qui est d'ailleurs très bien. Il y a eu deux coffrets de jazz. Alors là, Clerjat, il a fait ça tout seul. Et j'avais déjà, moi, travaillé avec André pour des disques Virgin en 1995, avec peut-être une des premières éditions de Charlie Patton, qu'on a vraiment remasterisé, etc. Il y avait Little Billy, il y avait Sonny Boy Williamson,
ouais.
Il y avait Blind Lemon Jefferson, Robert Johnson, bien sûr. Il y en avait 6, je dois en oublier. C'est des disques. Moi, j'aimais bien la pochette tout est un peu à la Andy Warhol. Voilà. Et les gens ont critiqué parce que c'était pas triste. C'était... Moi, je trouvais ça. Le designer avait vraiment un beau travail. Donc, il m'a rappelé quand on lui a demandé de faire un truc de blues. Et il voulait pas le faire tout seul et il voulait des gens qui étaient un peu là-dedans. On a fait ce coffret en un mois.
Un mois de travail, donc avec André Clerjat, toi, Christian Hester, un petit peu Philippe Sauré, un petit peu Marie pour aider, mais j'ai envie de dire, ça a été de l'artisanat et ça a été très très fissa. J'imagine mal écouter l'équivalent de 20 albums en seulement un mois. Est-ce que les morceaux qui sont dans ce coffret, bien sûr, avaient été tous écoutés par toi des années durant, mais comment et pourquoi ce choix d'artiste, enfin, c'est absolument pléthorique ce Triomphe du Blues.
Alors on a fait avec André, on a fait, il m'a invité à manger et comme ça je n'étais pas au courant, puis il m'a proposé ça. On avait des assiettes dessinées par son ami ciné d'ailleurs et il m'a dit faut qu'on fasse ça, faut que je rende le projet avant la fin juin, on devait être fin mai.
Mais pourquoi ce délai? Enfin, c'est absolument hallucinant de prendre, encore une fois, un coffret de 20 albums en un mois. Pourquoi ce challenge, finalement?
Ah, parce que c'était, fallait faire ça avant l'été, parce que tu sais très bien, en France, en été, on ne fait plus rien.
Oui, bon.
Il n'y a plus de projet où il faut attendre pour que ce soit prêt à la rentrée.
Et donc, tu n'as pas traîné avant de lui dire oui, je suis d'accord pour travailler avec toi?
Non, on a commencé après le repas tout de suite et on a fait une liste de thèmes. Enfin, il avait déjà fait ça pour le jazz et on s'est mis d'accord pour 20 thèmes représentatifs entre le Delta, le Chicago, celui qui a fait le truc jazz parce que le dernier. Voilà, les chanteuses de blues, les chanteurs, etc.
Le piano, etc. Et puis il y a également ce volume 15 que je tiens en main, Steel and Slide guitariste. On revient à la slide avec Tom Parel, avec Kokomo Arnold, avec Black Ace, avec Robert Nachtoke et également Casey Bill Weldon, que je te propose de nous présenter un petit peu plus en détail, puisque c'est l'artiste qu'on va écouter juste après, Christian.
Oui, je voulais faire... J'avais choisi ce morceau, comme tu me l'as demandé, parce que c'était une suite logique de Sam Coues, parce qu'en 1931-32, la première guitare électrique lap steel Rickenbacker, voilà, à 222, à 22. Et là, Sam Coues ne connaîtra pas cette guitare électrique. On ne sait pas ce qu'il aurait donné. D'autres l'ont connu. Mais on est vraiment au début de l'ère électrique.
C'est ce qu'on disait un peu, Christian, en parlant de cette période. Quand on pense guitare électrique des années 30, on pense à Charlie Christian, on pense à T-Bone Walker. Y a d'autres noms comme ça qui arrivent et dont on se dit, mais oui, bon sang, mais c'est bien sûr. Mais ce n'était pas le même type de guitare, en fait.
Oui, c'est joué à plat.
Voilà.
C'est la vogue hawaïenne. Donc, ils avaient déjà essayé de faire des guitares un peu puissantes, notamment les fameuses National, un résonateur qui permet d'avoir plus de puissance. Et c'était le début du cinéma, de l'électricité, des enregistrements électriques. Ouais. Donc, au même moment, il y a des fous furieux qui conçoivent surtout, alors on parle de guitare électrique, mais la guitare électrique ne serait rien sans les micros et sans les amplis. Donc ils font des conceptions d'amplis et de micros. D'ailleurs, la guitare lap steel était vendue avec l'ampli.
Et d'accord.
Il sonne en 35, il continue. Et beaucoup d'autres luthiers... électronicien, donc il crée les premiers amplis et les premiers micros. Et d'ailleurs, les micros qui sont sur les guitares Charlie Christian, hein, qu'on appelle, c'était des guitares de lap steel.
Alors, à propos de Casey Bill Weldon, parce que le temps nous presse un petit peu, est-ce que tu peux nous présenter ce titre et puis nous dire pourquoi le choix de l'artiste? Bon, parce que voilà, par rapport à la slide, bien sûr, et puis à l'artiste que tu nous as présenté juste avant, mais ça a été difficile pour toi quand je t'ai dit, voilà, il faut un morceau de ce coffret, les Triomphes du Blues. Celui-ci, t'es venu à l'idée par la logique avec Sam Coues.
Oui, puis j'aime bien, et c'est un des... Alors, Casey Weldon enregistrait, il s'appelait le sorcier de la guitare hawaïenne. de Wizard, de Ryan Guitar. Et c'était le seul témoignage qu'on ait, c'est Big Bill Bronzy dans son livre. Et on connaît très peu de choses sur lui. Très récemment, Jim O'Neill, qui est dans Living Blues, ouais, qui est un des fondateurs, ouais, a découvert qu'il serait mort apparemment, et il y a presque une certitude, en 1972.
Ah oui, ça reste.
Mais avant cette date-là, avant 2015, on ne savait pas ce qu'il était devenu. Il y a une photo de lui, et qui est apparemment l'unique photo connue, mais qui est hyper sombre, qui date de 1941 dans un journal de Chicago. Et Cassidy Weldon écoutait les Hawaïens. Il y avait deux grands. Il y a un duo qui a joué pendant de 1928 à 1936 sur la radio de Chicago, qui s'appelait WENR, qui s'appelle Jim et Bob. Et il a forcément entendu ces gens. Alors Jim et Bob, c'est pareil. Ils ont enregistré sur Bluebird 6 disques à tout casser.
On va écouter Cassie Bill Weldon, donc avec ce titre que tu as choisi qui s'appelle Way Down in Louisiana. On se retrouve juste après, si tu veux bien, Christian. Nous sommes en 1938 avec Cassie Bill Weldon, le titre Way Down in Louisiana, proposé par Christian Lightning E, notre invité du jour, avec ce coffret Les Triomphes du Blues, qui était sorti en 2001. Un coffret, Christian, qu'on ne trouve plus, ou alors de façon hasardeuse ou épisodique ?
Tu le trouves en occasion, oui, il y a des gens, je trouve, à des prix relativement, disons, doux, comme on dit.
De D'accord, 15. Voilà, donc genre une dizaine d'euros, c'est ça, quinzaine d'euros.
Oui, de 20, 30 maximum, il ne faut pas l'acheter plus cher, mais ça peut être pas cher. Et il y a le coffret Rhythm and Blues qui est encore moins cher.
Très bien. Christian, je voudrais te remercier pour tout ça, pour ce partage du savoir en ethnomusicologue que tu es et en musicien, bien sûr, puisque cet album qui s'appelle Paris Suburb Blues Style, qui comprend une quarantaine d'années de carrière et 25 titres, dont ce When I'm 64, que tu évoquais d'ailleurs, avec lequel tu termines l'album. Je voudrais te remercier pour tout ça, pour ce partage. On reste en contact, bien sûr, et puis peut-être que le hasard de l'actualité nous ramènera à nouveau près du micro, je ne sais pas. En tout cas, merci pour tout.
Ouais, bon, on a quelques projets un peu difficiles à concrétiser en ce moment, comme tout le monde.
Bah, tous les projets sont compliqués, effectivement. On va terminer avec Sliding in the Dark, Picking in the Light, extrait de Paris Suburb Blues Style. Christian, si j'ai oublié de te demander quelque chose ou si tu as un petit truc à dire pour terminer, c'est juste tout de suite.
Je te remercie, c'est sympa de m'avoir interviewé.
J'ai
pas souvent l'occasion. Et là, le disque est trouvable, pareil, sur Pressmeister ou sur mon Facebook. Et le morceau qui vient, c'est un instrumental qui a 40 ans, donc ça ne me rajeunit pas.
Et non.
Et c'est vraiment dans ma tête, c'est Blind Willie Johnson, quoi. C'est Dark Was the Night, quoi. C'est ce morceau magnifique qui est dans la compil blues d'ailleurs. Dans le gospel.
Ouais. Merci Christian.
Qui est parti sur des voyageurs, je sais plus quoi.
À tout bientôt.
Merci beaucoup, merci beaucoup.
Au revoir. Merci encore Christian Lightning, eux qui a commis cet album de 25 titres qui s'appelle Paris Suburb Blues Style. Nous on poursuit avec le disque coup de cœur du mois, c'est toujours l'album de Selwyn Birchwood et on va changer la semaine prochaine d'album coup de cœur puisqu'on sera en mars, ce sera l'album de Tiger Rose. Donc pour un dernier extrait, voici Selwyn Birchwood avec My Happy Place. Et non, My Happy Place, c'est pas celle-là, c'est plutôt celle-ci. Selwyn Birchwood.
Sometimes life just weighs too much and you can't seem to find your strength. Retreating to the sounds where your troubles would melt away. You're lifted above your worries where there's no such thing as pain. Where every vibration seems to smile and know your name. One part melody and one part harmony and a splash of imagination is all it takes to make my happy place.
On est en 2021 et c'est cette année que cet album est sorti, il y a à peine un mois. C'était chez Alligator Records, l'album Living in a Burning House, disque coup de cœur pour Sweet Home Chicago. On poursuit avec un disque de 1971, vous le savez, c'est la rubrique 50 Years After, avec l'album solo, le premier album solo après le groupe Taste de Monsieur Rory Gallagher. On va réécouter avec grand plaisir, j'espère pour vous, ce Can't Believe It's True, Monsieur Rory Gallagher.
Where are you? Chime at all. Clock on the wall. Why does this have to happen at all? Just trouble following me about. And that is one thing I can't do without. Clock on the wall, why do you bother to chime at all? Spot on the wall, did I really see it moving at all?
time at all. Clock on the wall, why does this have to happen at all?
Magnifique titre de Rory Gallagher, ici en fin d'album, l'album qui s'appelle tout simplement Rory Gallagher, enregistré initialement en 1971, c'est la séquence 50 Years After. Les albums sortis en 1971 auraient droit à un album chaque semaine durant cette année 2021. Voilà, Rory Gallagher, Can't Believe It's True, c'est presque la fin de Sweet Home Chicago. On va se terminer tranquillement avec la vieillerie de la semaine. Mais ensuite, on va récupérer une heure avec Dan Zirotti pour le numéro 5 de Moonshine Blues. Donc bien sûr, vous restez à l'écoute du 666. Voici R.L. Burnside, A Bothered Mind, c'était en 2005. Ça s'appelle Someday Baby. Je vous retrouve samedi prochain. Salut, bye bye.